Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour un nouveau délit d'opinion. Alors, pour faire cette émission, d'abord je me suis posé la question de quelle était l'actualité du moment, et puis j'en suis, après une longue réflexion, arrivé à la conclusion qu'il n'y avait pas d'actualité du moment. Et donc,
Oui, alors qu'est-ce que va faire BFM et tout ça, s'il n'y a pas d'actualité, qu'est-ce qu'ils vont faire?
alors le truc c'est que eux, ils ont un avantage, c'est qu'ils peuvent parler de trucs totalement inintéressants pendant des heures.
Non.
Et moi,
Les pannes d'électricité dans la Creuse ou...
Voilà, exactement. Moi, je me voyais pas vous parler de la guerre en Ukraine avec le général en chef des armées là, je sais plus
Le
quel est son
gonfleur
nom.
d'hélice, là.
Voilà, qui nous dit qu'il va falloir d'abord qu'il nous dit qu'il va falloir sacrifier nos enfants et puis ensuite qui rétropédale en quelque sorte sur le service public pour dire non non mais je me suis mal exprimé vous m'avez mal compris. Enfin voilà. Donc je me voyais pas faire une heure sur ça ou sur autre chose. Donc je me suis dit pourquoi pas faire une heure de réclame pour
Réclame, comme on disait autrefois, de
voilà de
publicité, mon cher, voire de
publicité
marketing, si vous
voilà
êtes à la pointe de la mode.
oui je suis un
Quand
petit
j'étais
peu
enfant, on parlait de réclame.
effectivement je m'adapte en
Mais
plus. Non mais alors
vous, avec votre temps, c'est bien.
voilà c'est important parce que d'une part il faut dire que nous avons un nouveau site internet qui est disponible pour l'université de l'épargne, c'est-à-dire que les nouveaux qui s'inscrivent arrivent sur ce nouveau site et nous avons une migration en cours pour ceux qui sont déjà inscrits, donc c'est normal, peut-être au moment où où cette vidéo sortira vous arriverez sur le nouveau site. Je ne peux pas vous donner de date pour des raisons techniques parce qu'il y a toujours des petits défauts techniques au jour le jour à régler en permanence, mais voilà, les nouveaux, ceux qui n'ont jamais été abonnés à l'université de l'épargne,
Ce qui est une grosse erreur.
voilà, ce qui est une énorme erreur, on peut en parler, mais vous pouvez rectifier cette erreur en vous abonnant aujourd'hui. Vous arriverez donc sur un nouveau site tout beau, tout neuf. Je l'apprécie énormément, qui est davantage adapté à nos besoins actuels et futurs. Donc voilà, je suis assez fier de ce
Parce
nouveau
qu'il faut
site.
dire quelque chose, c'est qu'on a c'est l'université d'épargne à peu près un an et demi, et on s'était dit ça va intéresser 30 personnes, et on s'est retrouvé avec 8 000. Donc
Oui.
on s'est dit, bah zut alors. Enfin, on était très contents, inutile de vous dire. Donc au début, c'était quelque chose d'artisanal, mais avec le nombre de gens, les questions qu'on reçoit. Et je vais dire quelque chose qui me touche beaucoup, c'est la qualité des intervenants dans le site. On a l'impression que vraiment,
Absolument.
ils ont bien compris ce qu'on essaye de faire. Et moi, j'en suis très très content parce qu'on a l'impression que vraiment, notre devoir d'éducation commence à avoir porté ses fruits, quoi.
Ouais.
Je suis très fier de mes élèves.
Absolument, parce que alors peut-être certainement vous si vous n'êtes pas déjà abonné à l'Université de l'Épargne, vous avez peut-être une vision très floue de ce qu'il y a dedans. En fait, concrètement, il y a des cours, il y a davantage d'émissions aussi, on parle d'actualité, on parle du portefeuille, on parle de plein de trucs. Donc il y a beaucoup de vidéos maintenant. Il y a des émissions sur la fiscalité aussi qu'on avait fait avec un de mes collègues, et d'ailleurs qu'on va continuer à en faire d'autres, mais on avait fait notamment une série en mai dernier sur la déclaration fiscale. On allait vraiment dans le détail du détail de la déclaration pour chaque cas, en étant le plus précis possible. Enfin bref, il y a beaucoup de choses. Ce qu'on voulait faire au départ, c'était vraiment une plateforme vidéo. Et en fait, il s'avère que je crois le point le plus fort de cette université de l'épargne, au final, c'est la communauté. C'est-à-dire que déjà, il y a beaucoup de
Oui,
gens.
c'est ce que j'ai dit, ça me
Voilà.
paraissait. Beaucoup de gens qui s'intéressent et qui étaient peut-être un peu isolés et qui trouvent là un endroit où ils se retrouvent les uns les autres, ils s'échangent des idées. Et je trouve ça parfaitement. Alors, ce qu'on essaye de faire, sur lequel on travaille aussi, c'est qu'on va mettre sur cette plateforme dans un le temps des programmeurs, vous savez, ça met du temps, ces trucs-là. Ces petites bêtes travaillent lentement, mais on va essayer de mettre des exercices de travaux pratiques. C'est-à-dire où chacun pourra essayer de simuler un portefeuille, de voir comment il réagit en prenant le passé, etc. Donc, de façon à ce que vous puissiez, avant de risquer votre propre argent, prendre confiance et puis jouer. Donc, petit à petit, ça devient sérieux.
Ouais, absolument. Ça devient sérieux au départ, presque. Pas envie de dire que c'était pas sérieux, mais enfin c'est vrai qu'au départ c'était en quelque sorte un ballon d'essai, on voulait regarder ce que ça donnait. Alors on a quand même beaucoup travaillé pour y arriver, mais au final ça a donné quelque chose d'encore plus sérieux que prévu. Et donc aujourd'hui on en arrive là avec un nouveau site tout beau tout neuf. Autre chose, nous avons les mondes de demain qui est
Ben voilà.
arrivé. Alors chez ceux qui l'avaient précommandé, normalement il devrait déjà être
Derrière
arrivé.
chez vous.
Il y en a qui l'ont eu avant nous, pour dire à quel point la livraison a été rapide pour certains. Donc voilà, les mondes de demain, on en parlait dans l'émission de la semaine dernière, c'est les mondes, enfin, le
dans
comment
le fond,
sera
vous
le
savez,
monde
voilà,
dans 20 ans, quoi.
Comment la façon dont j'ai toujours travaillé, c'est que je m'intéresse à ce que j'appelle les tendances lourdes, c'est-à-dire les choses, la démographie, etc. Des choses qui changent pas du jour au lendemain. Donc, ouais. Par exemple, les déclarations que peuvent faire Trump ou Macron, ça m'en occupe pas tellement. Et donc, je crois avoir discerné un certain nombre de tendances lourdes pour les années qui viennent. Je les ai réunies dans ce petit livre. Et à partir de ces tendances lourdes, vous pouvez orienter stratégiquement votre épargne, quoi. C'est un peu ce que j'espère.
Ouais.
Donc voilà. Bon, c'est tout, comme toujours, publié chez Pierre de Taillac. Et je trouve que l'édition, Pierre est un garçon charmant. Et il fait des beaux livres.
Oui,
ce que je veux dire,
absolument.
Ces livres sont beaux. Ils sont pas simplement, il y a pas simplement ce que j'ai mis dedans. Il y a aussi le travail de l'éditeur qui est loin d'être nul. Et je trouve ça agréable d'avoir dans sa bibliothèque des livres qui sont physiquement beaux.
Oui, tout à fait. Bah, à cet égard, par exemple, il y a aussi, c'est de vous faire avoir, qui était sorti, du coup, l'an dernier. Alors, ceux qui sont abonnés à l'Université de l'Épargne ont un accès gratuit aux lecteurs. C'est-à-dire qu'ils peuvent regarder sur leur ordinateur, sur leur tablette, le bouquin et le lire.
C'est un peu le manuel de l'université.
Voilà, c'est un peu le manuel de base. Et d'ailleurs, si vraiment vous intéressez à la chose, mais que vous n'êtes pas encore sûr de prendre un abonnement annuel, ben, vous pouvez déjà, dans un premier temps, acheter le livre. Et si vous avez envie d'aller plus loin, et ben, vous allez sur l'Université d'épargne. C'est un peu ce que je peux vous indiquer. Et
on a tiré 50 000 exemplaires. C'est beaucoup. Hein.
Bien sûr. Et il y a beaucoup de gens qui avaient accès au lecteur, mais qui voulaient aussi avoir l'objet physique. C'est agréable d'avoir l'objet physique.
Voilà.
Je préfère moi aussi lire sur papier que sur ordinateur ou sur tablette. Et alors, dans cette émission, je voudrais en quelque sorte convaincre les gens de s'abonner à l'Université de l'Épargne, de rentrer à l'Université de l'Épargne. Donc, pourquoi, en fait? Ben déjà, c'est pour apprendre à gérer ses finances personnelles.
Voilà, alors c'est très important parce que, vous savez, la base du libéralisme, je ne cache pas que je suis un libéral, libéral point barre, quoi, un peu libéral, c'est pour être libre, il faut pouvoir être libre de l'État, qui a le monopole de la violence légitime, c'est-à-dire que la liberté sans la propriété privée, ça n'existe pas. Donc, vous avez remarqué que tous les gens qui nous gouvernent n'ont qu'une idée, c'est de restreindre vos libertés et s'attaquer à la propriété privée. Et vous avez la possibilité de reprendre un peu de liberté en gérant votre propre épargne, en partant du principe que l'État ne la gérera pas bien, que vous n'aurez rien à la retraite, quoi. Donc, ce qu'on essaye de faire, c'est vous aider à gérer votre épargne, avec dans l'idée de faire à peu près, mettons, du 6% par an réel, c'est-à-dire déduction faite de l'inflation.
Ouais.
Et à 6% réel, vous doublez votre capital en termes réels tous les 12 ans, donc vous le quadruplez en 24 ans. Et si vous travaillez 48 ans, ben vous allez encore gagner plein d'argent. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'à 6% réel, vous faites à peu près 4 ou 5 points de mieux que le PIB. Qui vous donne une évolution de votre salaire probable. Donc, votre épargne, si vous l'investissez intelligemment, elle va faire beaucoup mieux sur le moyen terme que votre salaire et donc que votre consommation si vous consommez tout.
Ouais.
Donc, si vous vous débrouillez pour épargner un petit peu chaque mois, chaque année, etc., vous allez avoir en fin de vie un niveau de vie très supérieur à celui qui n'aura pas épargné. Donc, ce qu'on dit aux gens, c'est le moment. Et vous pouvez le faire aujourd'hui technologiquement parce que c'est facile avec les plateformes. Pour la première fois dans l'histoire, vous pouvez vivre à Paris et avoir votre épargne à Buenos Aires ou à Toronto. Vous voyez ce que je veux dire ?
Ouais.
Y a pas de problème. Et donc, vous avez cette possibilité. Et reprendre le contrôle de votre épargne, c'est reprendre le contrôle de votre destinée et de votre liberté. C'est ça un petit peu le but de notre... On essaye de vous aider à devenir des citoyens libres.
Tout à fait. Et alors, du coup, effectivement, nous avons un objectif de croissance d'à peu près 6% par an, déduction en fait de l'inflation. C'est-à-dire que l'idée, c'est de capter globalement une partie de la croissance du marché action, tout en limitant quand même le risque, la volatilité.
Ce qui fait qu'on aura une rentabilité inférieure à celle des actions sur le long terme. Mais les actions, vous pouvez avoir des périodes où vous perdez 50% et où il faut 4, 5, 6 ans pour retrouver votre fric. Tandis que la façon dont on essaye de gérer, c'est que on perd pour ainsi dire, enfin... touchant du bois, mais c'est mon père pour ainsi dire, j'avais plus de 10%, quoi. Ce qui fait que si vous perdez 50%, ce qui est arrivé 3 ou 4 fois dans les 20 dernières années,
c'est arrivé, effectivement.
Il vous faut que vous doubliez pour retrouver votre truc de départ.
Oui.
doubler, c'est pas, oui, ça, c'est... ça se fait pas en 5 minutes, hein.
Effectivement, oui, ça c'est un truc que qu'on comprend, enfin, ce qui est pas difficile à comprendre, mais effectivement, qui peut être contre-intuitif, c'est que vous, si vous perdez 50% de votre portefeuille, derrière, votre performance pour récupérer, il faut que ce soit plus 100%. Si vous perdez 33%, il faut que ce soit plus 50% pour récupérer. Enfin, à chaque fois, voilà, parce que vous partez de moins loin, donc il faut faire plus pour récupérer ce que vous aviez avant. Ouais.
Donc c'est ça, ça une longue expérience et plein de coups dans la gueule m'ont appris que c'était plus facile de passer de 95 à 105 que de 50 à 105, quoi. C'est,
oui.
Voilà, il y a une pratique, et cette pratique, si vous voulez, c'est d'essayer de, comme vous l'avez dit fort bien, d'attraper la rentabilité du système capitaliste en évitant ce qui en fait un peu la caractéristique, les crises où vous perdez la moitié de votre fric, où on nettoie les incas, vous savez. J'avais un vieil ami qui était un financier qui disait que les crises, ça sert à retourner l'argent à leur propriétaire, à son propriétaire légitime. Vous voyez ce que je veux dire?
Ouais.
Il y a des tas de gens qui ont, par exemple, il y a des tas de gens qui font plein d'argent avec le bitcoin, et puis d'un seul coup, depuis 15 jours ou 3 semaines, il y a toute une série de gens qui, l'argent qui a été fait dans le bitcoin retourne à son propriétaire légitime, c'est-à-dire ceux qui étaient là depuis le début, ou j'en sais rien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est, l'argent facile, il est pas très fidèle.
Oui, effectivement, il peut être rapide, mais il reste pas forcément très très longtemps, effectivement. Et alors, d'où vient le raisonnement sur la construction de portefeuille? C'est-à-dire que il y a une notion qui est extrêmement importante dans votre raisonnement, c'est la notion des quatre cadrans.
Les quatre cadrans. Alors là, c'est quelque chose d'assez simple, c'est que pour que vous avez deux notions qui sont absolument essentielles à tous ceux qui s'occupent des phénomènes financiers, c'est est-ce qu'il y a croissance économique ou pas?
Oui.
Donc ça c'est la première. Est-ce que
donc là par exemple dans le cadran c'est on va se situer plutôt à gauche ou plutôt à droite?
À droite. C'est-à-dire vous faites un axe horizontal, croissance à droite, pas de croissance à gauche.
Ouais.
Et puis ensuite vous avez un axe vertical qui est-ce qu'il y a hausse des prix ou pas.
Ouais.
Alors s'il y a hausse des prix on est en haut, s'il n'y a pas hausse des prix on est en bas. Donc ça vous fait quatre cadrans si vous croisez les deux axes.
Ouais.
Donc vous avez le cadran le plus favorable, c'est celui où vous avez croissance et pas d'inflation.
Ouais. Donc là, on est en bas à droite.
On est en bas à droite, c'est le boom déflationniste. Et c'est là où il faut bourrer comme un malade sur les actions. Parce que c'est là que les actions font à peu près 80% de leur performance sur le long terme. Après ça, elles crapotent le reste du temps. Puis, vous passez dans une période où il y a croissance et inflation. Mmh. Et à ce moment-là, il faut avoir que de l'or, là, parce que c'est là où ça cartonne. Puis ensuite, si le gouvernement essaye de lutter contre l'inflation, les taux d'intérêt à court terme sont très élevés, c'est très difficile de faire mieux, donc il faut avoir que du cash. Et puis tout à fait en bas à gauche, si les taux d'intérêt sont au-dessus du taux de croissance, c'est-à-dire si on est dans une trappe à dette, en quelque sorte, dans un pays qui est mal géré, ben à ce moment-là, il faut avoir que des obligations. Donc vous avez quatre cadrans, et à chacun de ces cadrans, vous avez un actif de choix, si vous voulez. Vous avez les quatre actifs comme ça. Et vous vous dites, dans le fond, je ne sais pas très bien où on est. On a des tas de façons d'essayer de déterminer, mais j'en suis pas sûr. Mais je sais très probablement où je ne suis pas.
Ouais.
Et donc, à tout moment, quand vous regardez ces quatre cadrans, vous pouvez dire, je suis certain que je ne suis pas, par exemple, en bas à gauche. Je ne suis pas dans un bust déflationniste.
Ouais.
Une dépression déflationniste. Et donc, ça veut dire que vous ne pouvez pas avoir les trois actifs, mais vous n'avez pas besoin du quatrième.
Ouais.
Et on rencontre aussi, par exemple, qu'historiquement, vous n'avez jamais gagné de l'argent sur les marchés obligataires et sur l'or en même temps. Donc, ou vous avez de l'or, ou vous avez des marchés obligataires, vous n'avez pas besoin d'avoir les deux à tout le moment.
Ouais.
Et donc, ça vous permet, c'est une gestion très très prudente et qui est appuyée sur des études qui ont été faites par un gars qui s'appelle Brown, le Brown Portfolio, qui lui dit si vous mettez un quart de votre argent en action, un quart en or, un quart en cash et un quart en obligation, comme ça, et que vous revenez toujours à un quart une fois par an, comme ça, à peu près, vous faites à peu près du 4% par an en réel.
Ouais.
Et dans tous les pays du monde, avec une régularité d'horloge. Donc, ce qu'on dit aux gens, vous pouvez, plutôt que de faire du 4 comme ça, ce qui est bien, vous pouvez en enlever un des 4 à n'importe quel moment, et ça vous donne à peu près du 6.
Ouais.
Et c'est pour ça qu'on vise 6%. Mais ce que je dis aux gens, c'est 4% réel, c'est faisable sans prendre aucun risque, avec une volatilité très faible.
Sans se poser de questions.
Sans se poser de questions. Donc, si votre gérant, mettons que vous ayez vos fonds gérés par une grande banque française, j'en sais rien, si votre gérant ne fait pas 4% réel sur les 5 ou 7 dernières années,
il est extrêmement nul.
C'est pas la peine de lui laisser votre fric, quoi. Parce qu'il pourrait faire 4% réel sans se fatiguer.
Ouais. Il y en a qui se fatiguent et qui font moins.
Mais beaucoup, 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 beaucoup.
Il n'y a pas du tout de corrélation.
Et avec une volatilité très forte, très souvent.
Oui, ouais, effectivement.
Et ça nous amène aussi à dire que pour 4% réel, vous n'avez pas besoin de tous ces produits structurés
oui,
qu'on a
collés
dans votre portefeuille et qui sont de la saloperie.
Ça, effectivement, c'est un aspect très important parce que...
C'est liquide complètement.
Oui, alors c'est complètement liquide et c'est extrêmement simple. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur des produits...
Et on ne fait aucune prévision.
Voilà, on ne fait aucune prévision. On n'est pas sur des turbos, des warrants, des trucs en levier, des SRD, etc. On raisonne avec 4 actifs. Le cash, c'est-à-dire les obligations très courtes, les obligations longues, l'or, les actions. C'est tout. Et on arbitre entre les 4. Et à chaque fois, normalement...
On en a 3 sur 4 à peu
voilà,
près.
On peut en avoir 3 sur 4. C'est ce qu'on appelle le portefeuille Brown amélioré dans cette maison. Voilà. Et du coup, on part du portefeuille de Brown, donc avec un actif à chaque fois, donc 25% cash, 25% obligation, 25% or, 25% action. Et on élimine un des 4. Et du coup, on se retrouve avec 33,
ce qui fait qu'on prend un... Et ça n'augmente pas tellement notre volatilité.
Non, effectivement.
Un peu, le gain de rentabilité est très bien. Est
ouais,
très
tout
bien
à fait. Ça augmente la performance du portefeuille, mais pas véritablement la volatilité. Effectivement.
Donc, c'est d'une façon extraordinairement pépère. Vous pouvez, pour ainsi dire, jamais une perte de plus de 10%. Et deuxièmement, si par exemple vous avez un drame dans votre vie, vous perdez votre boulot, etc., vous pouvez liquider votre portefeuille dans la journée.
Oui, effectivement.
C'est complètement liquide.
Alors, c'est un aspect important parce que effectivement on peut se dire tout à fait de manière rationnelle, moi en tant qu'investisseur, ça m'intéresse pas forcément de limiter la volatilité parce que ce qui m'intéresse c'est vraiment juste la performance long terme. C'est-à-dire que c'est pas très grave si je me prends un moins 30% au coin de la rue sur le marché action, je préfère quand même cela à un portefeuille peut-être plus safe. Le fait est que dans la vraie vie, on n'est pas obligé, enfin, on peut ne pas avoir le loisir de décider soi-même si on subit véritablement ces 30% de baisse ou pas. C'est-à-dire que bah, parfois, on est juste obligé de liquider son portefeuille parce que.
En général, c'est le jour du plus bas.
Voilà, parce que. voilà, généralement. Parce que tout simplement, bah, s'il y a un moins 30% ou autre sur le marché action, en général, c'est parce qu'on est dans une récession. Si on est dans une récession, c'est accompagné d'une hausse du chômage. Donc peut-être que vous perdez votre emploi, donc derrière il faut quand même continuer à payer l'école des enfants, le loyer si vous n'êtes pas propriétaire, il faut continuer à payer tout un tas de trucs et du coup on est obligé de liquider. Et du
coup, c'est d'ailleurs ce que disait Chirac, c'est que les emmerdements ça vole en escadrille.
Voilà, exactement.
Et donc vous n'imaginez pas dans votre situation actuelle qu'un jour vous pouvez avoir besoin en panique de cet argent, mais dans le fond vous n'en savez rien du tout.
Et voilà, c'est ça.
Si vous avez un portefeuille beaucoup plus volatile, et je me souviens de périodes par exemple quand j'ai commencé dans ce métier, vous pouvez dire que de 69 à 82 aux États-Unis, ce qui est long, hein.
Ouais.
12 à 14 ans, c'est long. On n'a pas gagné un sou, quoi. Sur les actions, on a perdu.
Ouais.
On a perdu près de 50% en termes réels. Alors, bah, vous vous dites, avec ce portefeuille-là, je serais monté de 30 ou 40%. Donc, au moins, j'aurais pas.
Ouais.
Donc, quand je suis commencé à monter, je suis monté moins que les actions, mais je suis continué à monter, mais d'un niveau plus élevé. Et puis, j'ai dormi pendant ces 10 ou 14 ou 12 ans. Parce qu'au bout de 12 ans, vous vous demandez est-ce que j'ai raison, quoi.
Oui.
C'est long, 12 ans.
Oui,
au Japon, le plus haut a été fait en décembre 89. Et on est passé au-dessus de ce plus haut, je crois, quelque part en 2024, quoi.
Oui. Oui, absolument.
Donc, vous avez attendu, je sais pas combien, 25 ans?
Oui.
25 ans, c'est long.
Et je sais pas ce que ça vaut en termes réels.
Oui. Alors, il y a les dividendes qui ont été payés, etc.
Oui.
Mais quand même, vos actions, hein. Tandis que le portefeuille Brown, japonais, il a fait 4% par an tranquille, comme une horloge.
Oui.
En yens.
Tout voilà. À fait.
Donc, si vous voulez, c'est un. Dans le temps, imaginez que on ait cette réunion il y a 30 ou 40 ans. Je vous aurais dit, écoutez, c'est pas la peine de se casser la nénette. Il y a la Bundesbank qui fait son boulot. Les obligations allemandes, elles vous donnent toujours du 4 ou 5% en termes réels. Donc, vous embêtez pas, vous achetez des obligations allemandes et puis
vous avez
pas besoin de nous en quelque sorte.
Il n'y a pas besoin d'or, c'est surtout.
Il n'y a pas besoin d'or,
il n'y a pas besoin d'or.
Les actions, oui, vous pouvez en avoir si ça vous fait plaisir, mais enfin, c'était pas. Les actions font du 6% par an en termes réels, les obligations allemandes faisaient du 5, bon, bah. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que la Bundesbank a été détruite par l'euro, là, et le monsieur Draghi, et qu'aujourd'hui, les obligations allemandes sont devenues un désastre. Et donc, ben, ceux qui avaient choisi cette voie unique, ils se retrouvent, comme la plupart des retraités en Allemagne, avec des problèmes de retraite considérables. Donc l'avantage de ça, c'est que c'est diversifié. Vous auriez eu, si vous étiez en Allemagne, vous avez suivi le Brun, vous auriez de l'or, vous auriez des actions, et vous auriez pris une gamelle que sur 25% de vos obligations.
Alors ça, c'est intéressant, parce que quand on écoute la plupart des gestionnaires d'actifs, il y en a énormément qui ne raisonnent que dans le marché action. Et en plus de ça, il y en a qui ont aussi des domaines de prédilection, il y en a qui sont small cap, d'autres qui sont mid cap, d'autres qui sont big cap. Et donc, ils se disent, voilà, moi, je suis un sélecteur d'actions uniquement, et je raisonne que là-dessus. Mais est-ce que ça s'est véritablement diversifié?
Non, parce que, si vous voulez, ce qu'on sait maintenant avec certitude, c'est les grandes baisses. Vous avez des baisses, mais sont qui font 10, 15, 20% du marché, que j'appelle, vous savez, comme la publicité de Coca-Cola, la pause qui rafraîchit, quoi. Ça fait sortir la spéculation, c'est bien, ça vous permet d'acheter des trucs un peu moins chers, bon. Et puis, j'ai connu dans ma vie, aussi bien dans les marchés obligataires que dans les marchés des actions, ce que j'appelle des grizzlies, c'est-à-dire c'est pas des ours, c'est c'est pas des gentils ours bruns là, c'est des grizzlies, ils vous tuent, ils vous bouffent quoi. C'est des grosses bêtes, hein, c'est
oui.
Des très méchants en plus. Et le but, c'est d'éviter les grizzlies, parce que si vous attrapez le reste du temps, dans le fond, vous en foutez quoi, ça se digère, ça en 2 ans, c'est digéré quoi.
Oui.
Alors qu'un grizzly, il peut falloir 10 ou 15 ans pour que ça soit digéré. Et donc le but, c'est d'éviter les énormes baisses.
Oui.
Mais les énormes baisses, une fois qu'elles ont eu lieu, c'est aussi des opportunités pas possibles, parce que ça veut dire que tout est donné dans la rue, quoi.
Oui, bien sûr, pour celui qui a un peu de cash sur le côté.
Celui qui aurait des actions, de l'obligation, de l'or, s'il se remet en action, à ce moment-là, il fait un tabac. Ce que nous, on fait automatiquement, puisque c'est quasiment c'est automatique. Donc, c'est vraiment... la bourse, les actions, c'est un truc très curieux. Vous faites un tabac pas possible sur le long terme, mais mettons que ce long terme, pour vous, ça dure 30 ans... Mmh. Ben pendant un tiers de ces 30 ans, vous allez marcher très bien avec les actions, et puis les 2/3 du temps, vous allez rien faire du tout, quoi. C'est comme si vous avancez plus, vous crapotez, parce que les actions ne montrent que quand il y a une espèce de scénario, vous savez, celui en bas à droite, là, le boom déflationniste, c'est là où elle cartonne.
Oui. Parce que alors là, effectivement le truc c'est que la performance affichée quand on est dans une croissance inflationniste elle peut être impressionnante, sauf que le truc c'est qu'on est dans l'inflation et du coup en fait il faut déduire cette inflation pour avoir une vraie idée de la performance.
Je vous donne un exemple, tout le monde m'explique que le marché des actions français était très fort et tout. Vous prenez simplement le marché des actions dividendes réinvestis, c'est-à-dire vous payez pas d'impôts, vous réinvestissez vos dividendes et tout.
Oui.
Et vous divisez par le cours de l'or, qui est un bon instrument de mesure, parce qu'un gramme d'or, ça vaut un gramme d'or, ça vaut pas plus. Ben, vous vous rendez compte que dans le fond, depuis 2000, vous auriez mieux fait d'être en or que d'être en action, quoi.
Mais c'est ça, en quelque sorte, quelle quantité d'or vous pouvez acheter avec vos actions?
Voilà.
Avec dividendes
réinvestis. Avec votre portefeuille aujourd'hui.
Depuis 25 ans. Et ben, il n'y avait pas besoin d'être un génie de la finance pour faire mieux que...
En tout cas, voilà, grâce à cette méthode de gestion, on se retrouve avec 25% d'or, quoi.
Ouais.
Donc, 25% d'actions qui sont montées en nominal. Mais il faut faire très attention, comme les gouvernements font n'importe quoi avec la monnaie, on a beaucoup des hausses qui sont ce qu'on appelait autrefois des hausses de misère. C'est pas les actions qui montent, c'est la monnaie qui baisse. Et donc, vous avez l'impression que vous êtes enrichi, puis ensuite, vous allez prendre votre pognon pour aller acheter une sucette, et ça vous pourrait pas, quoi, parce que la sucette sera trop chère.
L'instrument de mesure est cassé, quoi.
Ben oui, si vous avez un mètre étalon qui passe de 1 mètre à 10 centimètres, les distances vont décupler. Hein.
Oui, Usain Bolt, il a plus aucune chance pour son record. je vais l'exploser. Oui, c'est clair. Et pourtant, je suis pas plus rapide que lui.
Donc, ouais, le problème qu'on a, c'est que dans nos métiers, on utilise comme instrument de mesure de la valeur la monnaie du pays. Bon, si c'est le franc suisse, c'est difficile. Mais si c'est le dollar de Zimbabwe...
Oui.
J'ai vu un type hier à la télévision, ça m'a fait sourire, mais enfin c'est triste. Ses parents avaient acheté une maison au Zimbabwe, 1 600 000 $ au Zimbabwe, ce qui faisait à peu près 300 000 €, il y a 20 ans, quoi, donc il était très content. Et maintenant, avec le 1 600 000 €, l'équivalent de 1 600 000 $ de Zimbabwe, c'est le prix d'une course de taxi. Donc, vous voyez, donc je sais pas combien vaut sa maison, mais... apparemment, il a gagné beaucoup d'argent avec sa maison, mesurée en dollars de Zimbabwe.
Oui.
Ben,
oui.
La question que je me pose, c'est est-ce que la monnaie française, c'est pas le dollar de Zimbabwe du futur?
Oui.
chevaux.
Oui, oui. Non, mais bien sûr, la question se pose sur la pertinence de l'instrument de mesure. Et alors, concrètement, comment on sait si on est dans quel cadran on se trouve, comment on sait si on est plutôt du côté croissance?
On fait ça de façon assez simple. Parce que je ne crois pas en mesures officielles.
La croissance, c'est pas la croissance du PIB.
Parce que le PIB, c'est une saloperie. J'ai écrit longuement là-dessus.
Et l'inflation, c'est pas non plus. Est-ce qu'on a une inflation au-dessus ou en dessous de zéro?
Donc, ce que j'essaie de faire, c'est de dire bon, vous avez deux réserves de valeur. Hein. L'or, d'un côté, qui est la réserve de valeur, mettons, éternelle, et qui n'est au passif de personne.
Ouais.
Vous voyez, quand vous achetez de l'or, c'est à vous. S'il n'y a pas quelqu'un qui vous doit quelque chose, et si cette personne fait faillite, il ne vous paiera pas.
L'or ne peut pas faire faillite.
Non, si c'est vous qui l'avez, voilà. Ouais. Donc l'or, il n'y a pas passif de personne. Et puis de l'autre côté, vous avez les obligations de l'État français. Là, l'État doit vous rembourser, vous payer des intérêts, etc. Donc, si la monnaie est bien gérée, c'est-à-dire si on n'a pas d'inflation, les obligations feront mieux que l'or.
Ouais.
Parce que l'or n'a pas de raison d'être, puisque c'est bien géré.
Ouais.
Et donc, si les obligations font mieux que l'or sur une période d'à peu près 7 ans, à ce moment-là, je considère que nous sommes dans une période où je peux acheter des obligations, j'ai pas de problème. 7 ans, ça paraît long, mais en fait, ça l'est pas tellement. Et puis, par contre, si l'or fait mieux, à ce moment-là, je passe en or et je vends mes obligations. Donc, jamais à la fois de l'or et des obligations. Donc, si vous êtes en haut ou en bas, selon la performance que fait l'or par rapport aux obligations.
Ouais.
Et puis, si vous voulez savoir si vous êtes à gauche ou à droite, c'est-à-dire croissance ou pas croissance, vous savez, comme je l'ai dit 25 000 fois ici, l'économie, c'est de l'énergie transformée. Et pour, donc, l'énergie, c'est ce qui est en quelque sorte la matière première de toute croissance. Il n'y a pas de croissance s'il n'y a pas d'énergie. Et donc, si l'énergie fait moins bien que le marché, ça veut dire que ceux qui achètent de l'énergie et qui font des produits avec gagnent de l'argent. À ce moment-là, vous achetez le marché. Et si l'énergie, le cours de l'énergie monte plus que le marché des actions, ça veut dire que ceux qui transforment de l'énergie perdent de l'argent. Et à ce moment-là, vous n'avez pas d'actions.
Ouais.
Sauf peut-être des valeurs pétrolières.
Ouais.
Donc, vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est deux méthodes très simples. Et je m'en contrefous du PIB, je m'en contrefous du taux d'inflation, etc. Parce que tout ça, si vous voulez, c'est manipulé. Dès le moment, prenez un exemple. L'État français a émis des obligations indexées sur l'inflation, sur l'indice des prix de détail. Bon, mais à ce moment-là, il y a une tentation pour l'État français d'aller voir l'INSEE en disant, dites donc que c'est avec le taux d'inflation que vous me calculez là, ça va me coûter très cher de rembourser ces trucs. Vous pourriez pas me faire une inflation qui soit un peu plus basse, quoi. Donc, automatiquement, dès que vous avez des contrats faits par les États qui sont appuyés sur des trucs officiels, les États vont mettre toute leur puissance pour essayer de pas vous payer l'argent qu'ils vous doivent, quoi, non?
Oui, bien sûr.
Donc, je n'ai, étant libéral, aucune confiance dans l'État, je me dis, je vais faire mes propres mesures, et qui sont toutes simples, que tout le monde peut faire, et que tout le monde peut appliquer, et qui marchent très bien.
Ouais. Et alors là, typiquement, par exemple, aux États-Unis, on serait dans quel cadran?
Aux États-Unis, si vous voulez, les actions font beaucoup mieux que l'or.
Oui.
Donc, on est dans une période inflationniste, donc il faut avoir de l'or, quoi, c'est pas d'obligation. Et les actions font mieux que l'énergie, donc on est à une période de croissance inflationniste, donc vous pouvez avoir des actions, il n'y a pas de problème. Il faut avoir des actions et de l'or, quoi.
Oui.
Et j'ai pas besoin de lire le Wall Street Journal ou d'écouter BFM pour savoir ce qu'il faut faire, quoi. M'en fous.
Oui.
Et si j'ose dire, tous les travaux qu'on fait avec Didier ici, c'est qu'il y a plein d'informations qui circulent. Quand j'ai commencé dans ce métier, le problème c'était d'avoir l'information. Aujourd'hui, vous l'avez sur votre Bloomberg en une seconde, là. Mais, vous savez pas quelle information est importante et celle qui l'est pas. Donc, ce qu'on constate avec Didier, on a fait des calculs statistiques, c'est qu'on trouve que 97% de l'information qui est disponible sur les chaînes instantanées, etc., c'est du bruit. Et il y a que 3% qui est important.
Ouais.
Donc, on affole le pauvre épargnant. On dit, vendez tout, il y a le yen qui est monté, vendez tout, il y a le yen qui a baissé. Il y a aucun rapport entre les deux, tout le monde s'en fout, c'est que du bruit. Et donc, si j'ai un conseil à donner, c'est si vous achetez la façon dont on gère, c'est si vous achetez un immeuble sur les Champs-Élysées, vous n'allez pas le vendre ou l'acheter toutes les semaines.
Ouais.
Donc, surtout, vous regardez pas ces écrans. Vous savez qu'ils deviennent verts ou rouges.
Ouais.
Parce que vous allez paniquer, vous allez quand il devient rouge, vous vendrez tout.
Vous allez vous dire, je dois prendre une décision. Alors la plupart du temps, il faut juste ne rien faire.
C'est ce que disait Warren Buffett, qui était le gérant mythique. Il disait, vous savez, chaque fois que j'avais envie de prendre une décision, autrefois, quand j'étais même encore maintenant, il a 92 ans, je sais pas quel âge.
95, je crois.
95, oui, il a 95 ans. J'allais au cinéma. À Roma, ce qui est quand même pas un port de pêche.
Ouais.
Il allait au cinéma parce que comme ça, ça lui évitait de faire des bêtises. C'est-à-dire qu'il résistait à cette tentation de bouger pour avoir l'impression de travailler, quoi.
Ouais.
C'est pas vous qui travaillez, vous avez travaillé pour mettre au point votre, vous avez un certain nombre de sociétés, une position, etc. Et c'est elles qui doivent travailler pour vous. Et la probabilité que vous l'amélioriez en la bougeant toutes les 5 minutes.
Elle est très faible.
Voire négative. Donc, surtout, vous travaillez bien sur la construction de la bête, et ensuite, comme une très belle maison qui a été bâtie, non pas sur le sable, mais sur le roc, ben vous allez habiter dedans tranquille, mais vous la bougez assez peu.
Oui, effectivement.
Nous, on a dû faire une transaction depuis qu'on a commencé à gérer il y a un an et demi. Quoi.
Oui, et depuis septembre 2024, nous n'avons pris aucune décision pour le moment sur le...
Voilà,
sur
aucune décision. Et on, si vous voulez, grosso modo, depuis le 1er octobre 2024, on doit être en hausse de 11% en euros. Ce qui est pas mal, parce qu'on n'avait quasiment pas d'investissement en euros, et que l'euro, ce couillon-là, il est monté de 17%.
Oui.
Donc normalement, si vous voulez, si j'étais en dollars ou si j'étais en monnaie asiatique, on aurait fait 28%, ce qui était très bien.
Oui, ce qui est beaucoup plus impressionnant.
Mais par contre, comme l'euro, il n'a aucune raison d'être là où il est, un de ces quatre, on va y avoir ces 17% qu'on va récupérer dans le portefeuille.
Ouais.
Donc il y a 17% qui sont là, implicites.
Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup d'actifs. Typiquement, je vois, parce que je suis beaucoup d'Américains qui parlent de finance, etc. sur Twitter, et on a beaucoup qui sont très contents de ce que fait le marché action américain, parce que, encore une fois, c'est exprimé en dollars, et il y en a plein qui ont un ETF S&P 500 qui, lui, est en euros, et eux, ils disent, bon, bah, ok, votre truc, il est sympa, mais enfin, moi, en euros, c'est pas impressionnant, quoi.
Ils ont fait zéro, parce qu'aujourd'hui, on a monté de 14%. Ouais.
C'est ça, ils ont fait à peu près zéro, donc c'est pas très intéressant pour eux.
Donc, nous, quand même, on fait 11, alors c'est pas qu'on se tape, on dit qu'on est des génies, c'est qu'on est, encore une fois, pour gérer de l'argent et en gagner, il faut pas être un génie, il faut être discipliné. Donc, si vous voulez, il faut pas réagir, il faut être calme, il faut pas réagir à toutes les nouvelles qui sortent.
Ouais.
Donc c'est assez amusant parce que au début vous vous dites tout le monde fait mieux que vous, puis au bout de 3 mois vous dites bah finalement je fais pas si mal que ça, au bout de 6 mois vous dites bah les autres ils sont pas si bons que ça, puis au bout d'un an vous dites bon bah
j'ai bien fait un truc
qui me permet de dormir la nuit, parce que vous verrez si vous occupez de votre argent, l'argent c'est un truc qui est très angoissant. Et donc, vous pouvez très facilement vous angoisser. Donc là, c'est une façon de gérer sans avoir peur.
C'est un aspect psychologique qui est extrêmement important.
Extrêmement important. Bien sûr. Les gens n'ont aucun sens de l'humour quand il s'agit de leur pognon.
Oui, bien sûr. Parce qu'encore une fois, c'est l'affichage des performances moyennes sur un tableur Excel, c'est très intéressant. Enfin, derrière, ça permet pas forcément de dormir la nuit, quoi. De se dire, non, mais t'inquiète pas, ça fait un rendement annuel moyen de...
Et alors aussi, si vous bâtissez un portefeuille... Si toutes les parties, vous avez, mettons, 4 parties dans votre portefeuille, là. Si toutes les 4 montent en même temps, ça veut dire que le portefeuille n'est pas bien fait, parce que normalement, les parties doivent se répondre. Par exemple, aujourd'hui, on a le yen qui nous fait des malheurs, qui nous a fait des malheurs, bon, qui a baissé à la place de rester tranquille. Mais l'or est monté de 40% depuis qu'on les a achetés. Et le yen, il a baissé de 10. Mais si le yen a baissé de 10, c'est à la limite parce que l'or est monté de 40%, il est monté de 40% parce que les dames japonaises ont acheté de l'or comme des malades, ce qui a fait que l'or est monté et que le yen a baissé, parce que pour acheter de l'or, il fallait du dollar. Ouais. Donc elles ont été obligées de vendre, donc ça fait monter le dollar et baisser le yen. Donc vous ne regardez pas la position or ou la position yen, vous regardez la moyenne des deux, et ça fait exactement ce à quoi on s'attendait, c'est-à-dire à peu près 20-25%, c'est très bien, quoi.
Ouais,
c'est à peu près ce qu'ont fait les marchés des actions aussi. Donc, c'est que un portefeuille, c'est un organisme vivant dont les parties... Donc, ce qu'on essaie toujours de dire aux gens, c'est si vous avez les 4 parties qui montent, c'est que c'est pas un bon portefeuille.
Oui, c'est pas normal, effectivement.
C'est pas normal.
Ouais. Et alors, nous, notre portefeuille, il est constitué de la manière suivante. Nous avons 25% en actions chinoises ou en un ETF Far East ex-Japan, donc Asie ex-Japon. Nous avons 25%.
Qui a fait la même performance depuis à peu près un an.
Voilà, qui a fait une très bonne performance.
Pareil, 25% à peu près, je crois.
Oui, c'est de cet ordre-là. Nous avons un ETC en or, enfin, oui, une position hors de 25%. Ouais. Voilà. Nous avons 25% en ETF énergie, typiquement
parce que, justement,
pétrolier.
Pour nous protéger contre ce risque d'une hausse surprise de l'énergie. Mmh. Et là, ils ont fait un gros zéro.
Voilà, ils ont fait un gros zéro, ce qui est plutôt attendu par rapport aux résultats des deux autres. Et puis nous avons cette position en yen qui nous broute, mais enfin qui est là quand même un peu au cas où. Et alors pourquoi on arrive à ces positions-là alors que tout à l'heure on avait dit que on partait du portefeuille brown et puis ensuite on éliminait un truc et on passe de 33 à 33.
Ce qui s'est passé, c'est le yen pour en là, c'est que il est extraordinairement sous-évalué. C'est-à-dire quelque chose qui s'appelle la parité des pouvoirs d'achat. Qui dit que, si vous voulez, le prix d'un McDonald's à Tokyo, à Paris, à New York et à Londres doit être le même sur le long terme. Ouais. C'est-à-dire, puisqu'il y a les mêmes ingrédients qui rentrent dedans. Donc, or, aujourd'hui, le McDonald's à Tokyo, il est moitié moins cher que le McDonald's à Londres. Donc, si vous êtes un Anglais, vous pouvez pas acheter du McDonald's à Tokyo pour le bouffer à Londres, vous voyez ce que je veux dire? Vous mettez votre fric en yens et vous attendez que le yen remonte à un niveau où, dans le fond, le McDonald's sera le même prix dans les deux, quoi. C'est-à-dire à peu près 50% de hausse. Donc ça, c'est la partie, si j'ose dire, et le yen a tendance à monter quand les marchés vont mal. Parce que Madame Watanabe, celle qui gère l'argent de la famille japonaise, elle a mis plein de pognon à l'extérieur et quand ça va mal, elle leur fait rentrer le pognon, ouais. Et donc le yen se met à monter.
C'est ce qu'on appelle le carry trade.
C'est le carry trade. Elle liquide ses carry trades et ça fait monter. Et ce qui se passe à ce moment-là, si vous voulez, c'est que dans le fond, le yen est en grande partie ce qu'on appelle un actif antifragile.
Ouais.
C'est-à-dire quand les marchés commencent à déconner, quand ils se mettent à vibrer, à volatilité très forte, le yen se met à monter parce que les Japonais ont des positions énormes dans les marchés des actions et des obligations étrangères et ils se disent « Ouh là là, ça va pas, je vais ramener mon fric à la maison » et hop, ça fait monter le yen. Donc ça, c'est une espèce d'assurance contre la baisse générale.
Ouais, c'est ce qu'on a vu dans les dernières grosses crises. En
ouais, à chaque fois, le yen monte. Et puis l'or, bah, c'est simplement parce qu'on n'a pas confiance du tout dans les monnaies, donc on a eu 25%. L'Asie, parce que tous les travaux qu'on fait, c'est d'ailleurs ce que j'explique aussi dans ce livre, ça se passera dans ce que j'appelle le cercle de Valérie Pierris, qui est l'Asie ex-Japon, quoi. Et ça va boomer pas possible. Et le pétrole, parce que moi, j'ai ramassé des gamelles dans ma vie, et c'est toujours quand le pétrole montait de façon inattendue, si vous voulez. Les gens me disent, il y a trop de pétrole dans le monde. Oui, c'est possible. Mais de temps en temps, il y en a pas assez, et quand il y en a pas assez, c'est là que les marchés baissent de 50%.
Ouais.
Donc j'ai tendance à avoir, c'est un peu comme une assurance de risque. Ok, je mets 25% de mon capital là-bas, j'aurais pu mettre un peu moins. Mais ça me permet de... si le prix du pétrole pète à la hausse d'un seul coup, parce que je sais pas quoi, on a bouché le détroit d'Hormuz, ou l'Arabie Saoudite, il y a un coup d'État, ou j'en sais rien, bah, à ce moment-là, si vous voulez, le yen montera, et les valeurs pétrolières monteront, ce qui me permettra de prendre la gamelle sur les actions sans que ce soit trop... Donc, si vous voulez, le portefeuille, c'était une espèce de machin. C'est comme le Goldorak, vous savez, vous aviez des espèces de machines que vous pouviez monter, vous savez, des poupées que vous pouviez monter dans tous les sens, puis à la fin, ça faisait... vous pouvez en faire un camion ou un héros, ou je sais pas quoi.
Ouais, oui, oui, oui.
Mais c'est un peu ça, le portefeuille, vous mettez des pièces, et finalement, à la fin, vous voyez que ça ressemble à quelque chose, mais chacune des pièces, c'est peut-être pas tellement évidente du point de vue de l'actualité d'aujourd'hui.
Oui, oui. Encore une fois, oui, c'est un ensemble, c'est-à-dire qu'il faut accepter qu'il y ait une partie qui soit au moins une partie peut-être qui soit temporairement perdante, en se disant, effectivement, soit tout s'est bien passé, et donc forcément ma partie qui est censée plutôt me protéger contre une baisse, bon faut pas s'attendre à ce qu'elle monte si tout monte normalement. Et à l'inverse, il faudra s'attendre à ce qu'elle monte si le reste baisse.
Voilà,
il y a une protection.
Vous avez avec ce portefeuille, vous avez un peu une ceinture et des bretelles, quoi.
Ouais.
Ce que je veux dire, alors d'accord, il est très, très, très robuste et tout et tout. Il fera peut-être pas du 40% par an pendant les mois qui viennent, mais c'est pas pour ça qu'il a été battu. Il est là pour faire du 6 ou 7% par an en termes réels, et pour l'instant, on y arrive, donc on est très content.
Tout à fait. Effectivement, c'est l'objectif affiché. On cherche pas à battre des indices ou quoi que ce soit.
Alors, pour ceux qui veulent le faire, on appelle ça le portefeuille turc. Il y a un nombre de nos auditeurs qui l'ont fait d'ailleurs.
Ouais.
Ils ont que des actions et de l'or.
Ouais.
C'est-à-dire qu'ils jouent.
Eux, ils sont 100% bullish.
Ils sont 100% sur un scénario. Ouais. Croissance inflationniste.
Ouais.
Ils prennent pas en compte les deux autres.
Ouais.
Pas de hausse de l'énergie.
Pour l'instant, ça marche très bien. Très,
pour
très bien
depuis un an et demi. Ils ont
c'est incroyable.
Ils ont fait du 40 ou du 45%.
Ouais.
Mais par contre, C'est volatile.
Oui, bien sûr, ça bouge. Volatile. Ouais. En général, c'est des gens qui sont assez jeunes et qui sont assez confiants dans leur avenir et qui se disent j'assume, j'attache ma ceinture et puis hop, je vais à fond.
J'enlève ma ceinture, mes bretelles. Ouais,
je me mets à 250 sur l'autobahn et hop.
Et, voilà, et tout va bien. Donc, la première des choses que vous devez faire, donc, c'est littéralement définir quels sont vos objectifs, le temps que vous allez mettre à les atteindre. Mmh. Et la volatilité que vous êtes prêt à accepter.
Ouais.
Une fois que vous avez défini ça, moi personnellement, parce que je suis arrivé à un âge avancé, doubler dans les 5 ans qui viennent, ça m'intéresse pas, mais perdre la moitié, ça m'embêterait.
Oui, c'est clair. Ouais. Ouais, absolument.
Donc c'est pas du tout de la même façon de gérer, quoi. Mmh.
Alors, selon certaines études.
Pardon, je m'excuse, ouais. Mais ou plutôt, vous pouvez vous servir de la bourse pour devenir riche, ou vous pouvez vous servir de la bourse
pour rester
riche. Et ça, c'est vraiment un machin pour garder la valeur de votre épargne qui monte de façon raisonnable au travers du temps.
Ouais, tout à
c'est
fait.
Un truc de père de famille.
Alors, selon certaines études, je regardais, c'était en tout cas ça datait de 2019, il y avait 3,5 millions d'actionnaires en France, c'est-à-dire moins de 5% de la population. Ça correspondait à seulement 6,2% des Français de plus de 18 ans qui détenaient des actions en direct, contre 14% en 2008, c'était encore davantage en 2000, il y avait 7 millions d'actionnaires en 2000 en France.
Ben, vous savez, si vous avez les gens à l'Assemblée nationale qui n'arrête pas de dire du mal des entreprises, de les taxer et de taper sur les entrepreneurs, ça finit par décourager le petit peuple. Hein.
Ouais, et c'est beaucoup moins que d'autres pays, typiquement l'Allemagne ou les États-Unis, où ce qu'on appelle l'investisseur retail, l'investisseur indépendant, le particulier, lui, il est capable de regarder son truc, son téléphone, une fois par semaine, et de regarder, d'acheter des actions de temps en temps. Il est capable d'acheter et de vendre directement. Là où nous, en France, nous avons beaucoup plus la culture déjà, pas forcément de détenir des actions.
On fait confiance à l'État.
On fait confiance à l'État, effectivement. On fait confiance aux institutions aussi.
Que l'État va s'occuper de votre retraite comme il s'est occupé de l'éducation de vos enfants, comme il s'est occupé des hôpitaux, comme il s'est occupé de l'armée, de la police, de la justice.
Effectivement.
Donc vous pouvez avoir confiance. Si vous pensez que l'État va s'occuper de votre retraite, à mon avis, vous avez dû voter Macron ou LFI, et vous êtes au mauvais endroit si vous écoutez ici.
Oui, effectivement, vous êtes au mauvais endroit, ou en tout cas, faut vraiment changer de braquet incessamment sous peu. Les véhicules de placement préférés des Français, c'est le livret A et l'assurance vie.
Ce qui est complètement idiot, parce que vous vous dites l'État va faire faillite, donc qu'est-ce que je fais? Je prends mon argent et je le donne à l'État pour qu'il investisse.
Alors, effectivement, parce que alors dans les assurances vie, il n'y a pas que des obligations, mais il y en a beaucoup. C'est-à-dire que par défaut, en fait, si vous ne dites pas à votre assureur ce que vous voulez dans votre portefeuille, il va vous mettre du fonds euro. Le fonds euro, c'est en grande partie des obligations d'État français.
Donc moi, j'ai plein de copains qui viennent me voir en me disant « Charles, qu'est-ce que je dois faire de mon épargne ?» Je leur dis « Écoute, c'est une bonne idée, dis-moi ce que tu as. » Parce qu'ils me disent « L'État français va faire faillite, n'est-ce pas ?» Alors je lui dis « C'est pas impossible, hein, c'est pas... » Et donc, qu'est-ce que je dois faire ? Et je lui dis « Qu'est-ce que tu as ?» Et il me dit « J'ai des obligations françaises. » Dans l'assurance vie, je leur dis, t'es quand même le roi des cons, parce que tu me dis, l'État va faire faillite, qu'est-ce que tu fais? T'épargne comme un malade, parce que l'État va faire faillite, et tu confies cette épargne à l'État qui va faire faillite.
Oui.
Il y a peut-être un problème de dissonance cognitive, comme disent les gens sérieux, quoi.
Tout à fait, effectivement.
C'est donc, tout ça, c'est une reprise en main, et le but de l'Institut des Libertés, de l'Université de l'Épargne, c'est dans le fond d'apprendre aux gens comment ils deviennent libres.
Oui, oui. Effectivement, c'est un véhicule de liberté énorme, déjà mental aussi. On se dit enfin, on ne dépend plus de quelqu'un.
Voilà.
On a ce présupposé que l'État il va faire mieux que nous, ou notre banquier il va faire mieux que nous. Non, pas du tout.
Banquier, il est là pour essayer de gagner de l'argent pour la banque.
Oui,
pas
c'est
pour
ça.
Vous.
Et il est là pour avoir des frais de commission importants. Parfois, il y en a qui facturent carrément des frais de commission sur des ETF. C'est-à-dire qu'ils gagnent de l'argent à mettre votre argent sur des ETF. Voilà,
vous pouvez faire gratuitement
ou quasi gratuitement avec
n'importe quel portefeuille. On voit ici des portefeuilles ici aussi de gens qui ont pas mal d'argent et tout. Et on se rend compte que les banques sur un portefeuille important peuvent prendre jusqu'à 2 ou 3% par an de frais cachés sur les taux de change.
C'est colossal.
Ce qui est monstrueux, c'est-à-dire qu'ils prennent la moitié de la rentabilité attendue si j'irais bien.
Tout à fait. Et alors aujourd'hui, fort heureusement, avec Internet et tout ça, on a des courtiers qui se bousculent au portillon. C'est un milieu extrêmement concurrentiel. Donc, ils sont obligés de pratiquer des prix extrêmement offensifs pour vous convaincre de mettre votre argent chez eux.
Alors, vous mettez votre argent en dépôt chez ce courtier, mais il reste à vous.
Oui.
Même si le courtier fait faillite.
Absolument.
Il est identifié à vous, sauf le cash. Le cash que vous aurez à ce moment-là dans la monnaie nationale, il pourrait être saisi dans la faillite de... Et puis ce courtier, il a des réseaux informatiques, etc., qui le relient à toutes les bourses du monde. Et donc, vous pouvez travailler avec lui à partir de votre ordinateur ou de votre téléphone. Quoi. Voilà, ça n'a aucune difficulté. Donc aujourd'hui, ça vous prend quoi? Peut-être 2 heures à apprendre à vous servir de ces plateformes.
Ouais.
Et puis ensuite, bah, vous êtes libre. Vous n'avez plus besoin de votre banque.
Faites ce que vous voulez, effectivement. Il y en a même qui permettent, ça j'aime bien, pour ceux qui débutent et qui ont un peu de mal à se dire « je vais acheter des actions », il y en a même qui permettent un mode démo, c'est-à-dire que vous pouvez créer un compte, vous avez, je sais pas, 20 000 euros totalement fictifs, et vous commencez à utiliser la plateforme, vous apprenez à acheter, à vendre, à mettre des ordres stop, limite, etc. Et voilà, ça aide à utiliser la plateforme. Alors après... au-delà de 2-3 semaines d'essai, franchement, ça sert plus tellement à quelque chose.
Non, mais c'est comme de jouer au poker sans qu'il y ait de pognon.
Oui.
C'est, au bout de 5 minutes, c'est pas bien intéressant.
Oui, c'est pas hyper intéressant. Oui, effectivement, votre tapis, il vaut rien. Donc, effectivement, c'est pas non, très
par
pertinent.
Par contre, vous pouvez jouer aux bridges, aux échecs gratuitement.
Non, mais
aux
voilà.
Échecs gratuitement. Mais vous jouez pas. Dans les jeux d'argent, il faut jouer avec de l'argent.
Ouais. Non, mais voilà. Vous allez pas apprendre le trading comme ça. En revanche, vous allez apprendre à utiliser une plateforme. Ce que je peux tout à fait comprendre. Voilà. Et alors, à partir de combien, en gros, à partir de quand on peut investir?
Bah, si vous voulez, c'est, je veux dire, le montant n'a pas d'importance, ce qui compte, c'est l'acte. C'est-à-dire, vous avez, si vous pouvez mettre 200 euros par mois, vous pouvez commencer avec 200 euros par mois, etc.
C'est tout à fait possible,
ouais. Et vous pouvez commencer à gérer. Et à ce moment-là, si vous voulez, ça va vous montrer quelque chose qui est très fort. C'est que l'épargne que vous faites comme ça, elle a une rentabilité qui a tendance à monter, du moins, c'est ce qu'on espère. Et ça veut dire que vous avez des tas de dépenses inutiles que vous faites tout simplement parce que vous ne savez pas quoi faire de votre argent, que vous stressez de faire. Donc le simple fait de gérer votre épargne va vous amener à générer plus d'épargne.
Oui.
Parce que ça vous permet de vous libérer plus vite, si j'ose dire. Et donc, le tout, c'est pas le montant, c'est de commencer.
Oui, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec ça. Pareil, avoir vraiment un œil là-dessus et savoir ce qu'on fait, ça va vous inciter aussi à épargner davantage. Vous allez vous dire, auparavant, ça me servait à rien d'avoir 200 euros de côté.
Donc, je vais acheter, je sais pas quoi en plus.
Voilà. Alors que là, vous allez vous dire, bon, là, vraiment, je construis quelque chose, je suis totalement conscient de ce que je fais, c'est pas géré par X ou Y qui fait n'importe quoi avec. Et donc, là, je vais vraiment me motiver pour épargner 200, 300, 500 000 euros par mois en fonction de votre salaire, en fonction de votre train de vie.
Donc vous vous rendrez compte en épargnant que vous avez toute une série de dépenses que vous faites par flemme, vous n'allez pas vérifier parce que vous dites m'en fous. Et que par contre, si vous les additionnez, vous dites oui, mais ça je pourrais le faire dans quelque chose de productif.
Et donc, si je mettais tout ça en action, ça vous permet de faire
aussi le tri dans le reste de vos dépenses, celles qui sont utiles et celles qui ne le sont pas.
Tout à fait, absolument. Voilà, je crois qu'on a fait un beau petit tour sur l'université
de l'épargne. Voilà, et l'idée de base, si vous voulez, pourquoi on fait ça, l'université de l'épargne, c'est que grâce à vous, les 8000 abonnés ou les 10 000 abonnés qu'on a maintenant, ça nous donne un cash flow positif, ce qui est quand même le début de la sagesse. Et on est en train de l'investir et on va développer des choses, justement, soit avec Yann, qui est un homme spécialiste de l'intelligence artificielle avec qui on travaille, qui va introduire des notions d'intelligence artificielle dans tout ça, avec Clément, avec vous, avec Emmanuel, avec Romain. On est en train de bâtir une équipe. Et on se dit que, compte tenu de la demande qu'il y a en France pour gérer son épargne, ça pourrait être... un très gros succès.
Et
ce serait bien qu'à la fin de ma vie, j'ai créé quelques sociétés, j'en crée une qui rende vraiment service aux gens.
Oui. Bah en tout cas.
J'ai toujours essayé de faire, mais là, ce serait aux petits plutôt qu'aux gros. J'ai beaucoup aidé les gros, mais je voudrais aider un peu les petits.
Oui. Bah à chaque fois, on a beaucoup d'abonnés quand on les rencontre qui nous remercient.
C'est très curieux d'ailleurs.
Y compris des abonnés parfois très jeunes. Hein, et il y en a, ils sont encore au lycée limite. Ils sont abonnés et ils nous remercient quand même de ce qu'on fait. Donc c'est presque étonnant. C'est en tout cas extrêmement gratifiant.
Ce que je sais aussi, si vous voulez, c'est qu'il n'y a pas une seule personne qui gère son portefeuille qui vote à l'FI.
Ouais, là, la dissonance cognitive, elle est assez importante. Ouais.
C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est votre argent, vous voyez que ce que fera LFI, c'est essayer de vous l'argent, de piquer l'argent que vous gérez,
ouais.
Et vous trouverez que c'est pas une bonne idée. Les socialistes aussi, les communistes aussi, quoi.
Ouais, tout à fait.
Donc finalement, des gens qui votent à gauche, il y en a peu qui ont des portefeuilles.
Ouais. Et on comprend aussi mieux, parce qu'on s'intéresse davantage, on comprend aussi mieux comment fonctionne l'économie.
Tout à fait.
Parce qu'en fait, vous y participez activement, et il y a effectivement un présupposé qu'on a sans doute plus en France qu'ailleurs, qui est que, bon, globalement, les actionnaires, ça doit être des gros mecs corrompus et véreux.
Avec un cigare et un écran.
Voilà, voilà, exactement. Et que forcément, ils doivent faire du mal à l'économie puisqu'ils doivent voler à droite pour chpiler à gauche. Et en fait, on peut se dire que à partir de rien du tout, on peut participer à cela. Et là aussi, il y a une énorme dissonance cognitive à gauche. Typiquement, ils nous parlent chaque année des dividendes énormes reçus par les actionnaires de Total, ou encore une fois les actions du CAC 40 qui sont envolées d'une année sur l'autre, et donc voilà, on a des Bernard Arnault de ce monde qui deviennent très très riches,
alors qui
très grave. Mais en revanche, c'est extrêmement risqué de se mettre dessus si on veut mettre par exemple de la retraite par capitalisation. Donc on a les deux discours en même temps, à la fois les actionnaires sont des gros voleurs et ils ont...
Mais vous devez pas venir un gros voleur parce que vous voterez plus à gauche.
Voilà, exactement, mais vous ne pouvez pas faire partie de ce monde-là, en fait on vous interdit d'en faire partie. Alors qu'en fait, bah vous mettez sur des ETF.
Je vous signale que dans les actionnaires de Total, le plus gros actionnaire, et de très loin, c'est les gens qui travaillent chez Total, qui mettent toute leur épargne chez Total parce qu'ils touchent les dividendes et ils sont bien contents après pour prendre des vacances et tout. Ça leur fait leur fonds de retraite.
Ouais.
Donc, plutôt que de demander l'avis de LFI sur Total, il vaut peut-être mieux demander l'avis de gens qui travaillent chez Total.
Ouais, je suis
une bonne affaire.
Effectivement. Voilà, donc si ça vous intéresse, vous pouvez évidemment vous abonner à l'Université de l'Épargne. Si vous n'êtes pas sûr que ça vous intéresse dans un premier temps, vous pouvez déjà lire le livre de Charles Gave, Cessez de vous faire avoir. Et si vous avez apprécié cette émission et que vous avez apprécié aussi Cessez de vous faire avoir, vous pouvez aller plus loin, du coup, en rentrant dans cette Université de l'Épargne où nous avons déjà 8000 personnes. Et je crois qu'on va en avoir beaucoup plus dans les prochaines semaines, dans les prochains mois.
Ben, merci beaucoup.
Merci infiniment et je vous
et
dis à très
vous,
bientôt.
Rien n'aurait été fait.
Voilà, absolument. Donc je vous remercie infiniment et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur l'Institut de Liberté et sur l'Université de l'Épargne.
Merci beaucoup.